Radio Okapi. Le journal présenté par Lech Oualassa.
Au sommaire, ce matin du lundi 30 octobre 2023 sur Radio Okapi, c'est en principe ce lundi que la Cour constitutionnelle va rendre son verdict dans les contentieux des candidatures à l'élection présidentielle. 11 affaires sont en examen, notamment celle opposant Seth Kikuni à la candidature de Félix Tshisekedi et l'affaire opposant Noël Tiani à la candidature de Moïse Katumbi. Le président Félix-Antoine Tshisekedi appelle à une stratégie commune sur le rôle central des pays des trois bassins forestiers tropicaux. Appel lancé samedi à Kintele à Brazzaville, au sommet des trois bassins du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mékong. Notre invité est le professeur Serge Tshibangu, haut représentant du chef de l'État. Il fait le point sur le processus de Luanda et de Nairobi, sur les retraits de la force de l'EAC et sur le M23. Mesdames, Messieurs, bonjour. Contentieux des candidatures à l'élection présidentielle. C'est ce lundi que la Cour constitutionnelle va rendre son verdict. À son audience publique de vendredi dernier, la Cour constitutionnelle a pris les 11 affaires sous examen en délibéré et a immédiatement rejeté la requête des Junior Tivoadi pour défaut des qualités. Elle a statué sur d'autres affaires sur lesquelles les avocats ont plaidé. L'avocat du candidat Seth Kikuni a demandé à la Cour d'invalider la candidature de Félix Tshisekedi qui violerait l'immuabilité des non-endroits. En réaction, l'avocat de Félix Tshisekedi rejette les accusations de la partie Seth Kikuni. Selon Jean-Claude Tshilumbayi, le candidat Tshisekedi ne s'est pas présenté sous une identité autre que celle figurant sur sa carte d'électeur. Ce serait lui faire un procès de mauvaise intention. Jeff Ngoy revient sur d'autres détails de cette audience de vendredi.
Dans son avis émis pour rejeter cette requête, le ministère public a relevé contre le candidat Seth Kikuni le non-respect du délai. Au lieu de déposer sa requête 48 heures après la publication de la liste des candidatures provisoires à l'élection présidentielle, il l'aurait fait au-delà du délai prévu. Un autre moyen soulevé par le procureur général est l'absence de pièces à conviction. La dernière affaire examinée est la requête du candidat Noël Tiani contre la candidature de Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République. Le contestataire de la candidature de Katumbi dit avoir produit des éléments qui seront étudiés par la Cour et espère qu'il va invalider la candidature contestée pour raison de nationalité non congolaise d'après lui. Noël Tiani n'a rien produit d'autre contre la nationalité congolaise de Moïse Katumbi qu'un article de Jeune Afrique, allègue l'avocat du président d'Ensemble pour la République. Selon Maître Hervé Diakessé, son client dispose d'un certificat de nationalité congolaise délivré en bonne et due forme par des autorités compétentes et qui est le seul document valable attesté la nationalité en droit congolais.
Et puis, la Commission électorale nationale indépendante a publié samedi la cartographie des bureaux de vote. La CENI précise que la cartographie publiée est disponible dans les antennes ainsi que sur son site web www.ceni.cd. Les électeurs, candidats, partis et regroupements politiques ainsi que les témoins et observateurs ont la possibilité de visualiser la localisation des centres de vote et bureaux de vote par province, ville, territoire et par secteur, chefferie et commune. La CENI annonce aussi à l'opinion publique que les travaux relatifs à la production de l'atlas électoral sont en cours. Je vous le disais dans les titres, la RDC appelle à une stratégie commune sur les rôles centrales des pays des trois bassins forestiers tropicaux. C'est le président Félix Tshisekedi qui l'a dit samedi à Kintele à Brazzaville au sommet des trois bassins du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mékong. Par ailleurs, il a rappelé que l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda par le M23 contribue aussi à détruire la biodiversité importante du parc des Virunga. Le chef de l'État congolais, co-organisateur de ces sommets, a souligné le rôle majeur qu'ambitionne de jouer la RDC par son potentiel environnemental, agricole et minier. On écoute Félix Tshisekedi dans ses propos recueillis par Alain Irung.
Ce sommet vient à point nommé en ce qu'il nous permet de réfléchir à quelques semaines de la tenue de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques prévue très bientôt aux Émirats Unis, de réfléchir sur des perspectives concrètes en vue de l'application effective de l'accord de Paris sur le climat, mais avant tout d'entrevoir la possibilité d'une stratégie commune visant à ressortir le rôle central joué par nos États dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, bien que la grande messe sur le climat approche à grands pas, ce sommet, appelé communément de nos voeux, constitue en une opportunité, en même temps qu'en un défi inouï, au vu de cette caractéristique que nous avons en partage, celle d'abriter sur nos territoires respectifs les trois plus grands massifs forestiers tropicaux de notre planète.
Autre nouvelle, le changement d'animateur à la tête du PDD-RCS va apporter une nouvelle impulsion pour préparer les groupes armés à la vie civile. C'est ce que pense le haut représentant du chef de l'État, le professeur Serge Tibangou, l'a dit au cours d'une interview exclusive à Radio Okapi. On l'écoute au micro d'Alain Irung.
Je pense que si le chef de l'État a pris cette décision de nommer de nouveaux animateurs à la tête du PDDRCS, parce que cette institution avait besoin probablement d'un nouveau souffle, d'une nouvelle énergie positive qui pourrait donc aider à ce que ce programme puisse réellement servir, hein, notamment aux ex-combattants, en les absorbant, les préparant pour la prochaine vie civile, n'est-ce pas? Donc je crois que oui, ça va sûrement aider. Mais il faudra savoir que donc, tout ce qui a été mis comme des processus de Nairobi et de Luanda, l'objectif final, c'était justement de donner une chance aux groupes armés locaux, notamment congolais, de pouvoir donc déposer les armes et se mettre disponibles par rapport au PDDRCS pour les préparer, comme j'ai dit, à la vie civile. Donc je pense qu'il y a une bonne synergie entre la redynamisation des animateurs du PDDRCS ainsi que les processus de Nairobi et de Luanda qui continuent leur chemin. Mais la finalité, c'est d'avoir donc ces ex-combattants qui sont absorbés et qui rentrent dans la vie civile.
Rendons-nous à présent au Sud Kivu. Commémoration ce 29 octobre 2023 des massacres de Bukavu. Il s'agit de commémorer l'assassinat le 29 octobre 1996 de l'archevêque de Bukavu, Monseigneur Christophe Munziroy, et ses collaborateurs. 27 ans après, les familles des victimes réclament justice, réparation et garantie des non-répétitions. Des dizaines de personnes vêtues de noir ont marché depuis l'hôtel des villes de Bukavu jusqu'à la place dite Munziroy au centre-ville de Bukavu. Un extrait de leur déclaration dans cet extrait choisi par Emmanuel Elamedi Wakabedi.
Nous, population du Sud Kivu, venons vers vous exprimer notre douleur interne et souffrance physique liée aux pertes atroces et prématurées des nôtres, arrachées à la vie lors de l'entrée de la HDL, RCD, Kundabatware, Mutebusi et les autres. Cette journée du 29 octobre est une journée noire pour la population de Bukavu. À la même date, le Sud Kivu avait perdu une bibliothèque, un baobab à la personne de Monseigneur Christophe Munziroy, sauvagement assassiné à Nyawera, avec tous ceux qui étaient avec lui. Les survivants de toutes les atrocités n'ont jamais bénéficié de la justice transitionnelle ou justice judiciaire. Cette date du 29 octobre que nous commémorons est un signe d'un deuil jamais levé, tout en réitérant notre gratitude pour les efforts que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a déjà fournis pour cette cause. En créant Fonarev, nous vous exhortons, Excellence, afin que pareille inhumanité ne se reproduise plus jamais à travers la RDC.
En Ituri, plus de 1800 élèves des différentes écoles des localités affectées par les conflits armés dans les groupements des Loga dans les territoires des Djougou éprouvent des difficultés énormes pour étudier. Ils sont concentrés dans deux établissements scolaires dont la capacité d'accueil ne permet pas aux enseignants de bien dispenser les cours. Leurs infrastructures scolaires ont été incendiées par des groupes armés, rapporte la société civile locale. Cette structure plaide pour la construction des écoles dans cette entité où de nombreux élèves ne vont pas à l'école depuis plus de 5 ans. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Il s'agit par exemple des écoles primaires Zaza, Lindji, Gobi, Jissa, Institut Tché et Lita dans le secteur de Olendo Tatsi. Depuis 2019, ces établissements scolaires ont été la cible d'attaques des groupes armés qui ont coûté la vie à des dizaines de civils et l'incendie de plusieurs maisons dans 13 villages dans cette entité. Selon la société civile locale, pour l'heure, de nombreuses écoles des localités sinistrées telles que Gouti, Goda, Palumbu, Zaza sont délocalisées dans les villages Bi. Ici, deux établissements scolaires construits l'un par des fonds propres propre de la communauté locale et par une ONG humanitaire accueille environ 1800 élèves, parmi eux 1300 du primaire qui étudient dans des conditions très difficiles suite au manque d'infrastructures. Désiré Magunga.
Au moins 1300 élèves étudient dans un bâtiment. Et il y a encore un PJS et il s'ajoute deux instituts. Il y a un besoin d'infrastructures, imaginez, avec 1300 et plus 500 des élèves. Il y a seulement 6 salles de classe qui s'est partagée de déranger. C'est-à-dire l'autre 6 salles de classe est construite par la communauté. Et cette salle reçoit 3 écoles.
Cet acteur de la société civile demande au gouvernement et ses partenaires de construire d'autres infrastructures scolaires pour favoriser l'accès à l'éducation pour tous. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, l'ONG Médecins Sans Frontières s'inquiète de la dégradation du contexte sécuritaire et humanitaire consécutif au combat entre la coalition des groupes armés locaux et les FARDC contre les M23 et son allié le Rwanda. Au moins 2 structures de soins appuyées par MSF se sont retrouvées au milieu des combats en territoire de Nyiragongo et Rutshuru, déplore l'ONG. Bernard Nyangi nous en parle.
Dans ce communiqué rendu public, le MSF parle notamment du centre de santé situé dans le site des déplacés de Kanyaruchinya, territoire de Nyiragongo, et de l'hôpital de Bambo, territoire de Rutshuru, où interviennent ses équipes. Les deux structures se sont retrouvées au milieu de combats à l'arme lourde dans leur proximité immédiate, respectivement le 23 octobre et le 26 octobre, entre les rebelles du 1-23 et les forces armées congolaises. Des dizaines de patients hospitalisés pour des cas de choléra ont dû fuir l'hôpital à Kanyaruchinya, alors qu'à Bambo, des dizaines de personnes déplacées vivant dans les environs ont été blessées. MSF condamne l'utilisation d'armes lourdes dans, autour ou contre les établissements de santé et rappelle à tous les belligérants que les structures et les véhicules médicaux doivent être respectés et protégés pour permettre aux agents de santé de soigner et transporter les patients dans un environnement sûr et sécurisé. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Santé toujours au Kasaï oriental, bonne nouvelle pour les femmes enceintes et les malades souffrant des problèmes respiratoires ainsi que les hémorragies du type digestif. L'hôpital Notre-Dame de l'Espérance vient d'être doté des équipements médicaux de haute facture pour les soins intensifs et la réanimation afin d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients. D'après le médecin directeur de ces centres hospitaliers, quelques équipements n'existaient pas dans les hôpitaux de la place. Les malades qui devraient se rendre à Kinshasa ou à l'étranger seront désormais pris en charge localement. Docteur Florent Titenga, médecin directeur de l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Nous avons reçu plusieurs équipements diversifiés pour plusieurs services.
Et des équipements qui n'existent pas partout. Par exemple, pour la fibroscopie respiratoire ou la bronchoscopie, c'est une première en Mbujimayi. L'échographie 3D, 4D, c'est également une première. Pour les malades qui devraient voyager pour les hémorragies du type digestif, les hémorragies où il y a les varices qui se rupturent, l'occasion pour voyager sera réduite, sauf si quelqu'un veut voyager par lui-même. Ce sont des choses que nous pouvons déjà réaliser sur place. Et avec cette échographie, c'est aussi une bonne nouvelle pour les cas des endométrioses. Ça nous permettra de faire ce qu'on appelle les hydrosonographies. Donc ce sont des échographies qu'on fait pour voir toutes les pathologies qui sont dans l'utérus. C'est un matériel qui va vraiment nous aider pour le bien-être de notre population. Nous avons reçu les moniteurs des signes vitaux, pratiquement tout pour suivre un malade en soins intensifs de façon adéquate. Nous avons aussi un matériel en urgence qu'on pourrait même mettre dans une ambulance pour lever les urgences rapidement. Les cardio-moniteurs, défibrillateurs, les matériels de nébulisation. Maintenant, là, nous venons d'avoir un endoscope qui est aussi multisystème.
Le ministère des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, le ministre Marc Ekila et son collègue des Finances, Nicolas Kazadi, viennent de signer conjointement un arrêté interministériel axé sur la tarification pour l'acquisition des nouveaux permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Selon cet arrêté, la Société des droits congolais spécialisée en imprimerie des valeurs, AutoJust, aura la charge de produire cette pièce à tous les transporteurs du pays. Ce même document renseigne le prix d'acquisition du nouveau permis de conduire dont la clé des répartitions des recettes se fera entre le trésor public et la société AutoJust. Véhicule de 2 à 3 roues, 38,5 $, véhicule des 3,5 tonnes, 71,5 $, véhicule à plus de 3,5 tonnes à $99.
Actualité internationale.
Au Kenya, les représentants des communautés Maasai du Kenya et de la Tanzanie ont envoyé dimanche 29 octobre une pétition à la couronne britannique. Le roi Charles III doit arriver ce lundi à Nairobi pour une visite de 4 jours. Buckingham Palace a annoncé que le souverain évoquerait les aspects les plus douloureux de l'histoire britannique au Kenya. Parmi eux, selon les communautés Maasai, il y a la spoliation de leurs terres.
L'invité.
Notre invité est le professeur Serge Tshibangu, haut représentant du chef de l'État. Il fait le point sur les processus des Luanda et des Nairobi, sur les retraits de la force de l'EAC et sur les M23. Professeur Serge Tshibangu s'entretient avec Alain Irung.
Professeur Serge Tshibangu, bonjour.
Bonjour monsieur Alain Irung.
Les appels sont nombreux, notamment ceux des États-Unis d'Amérique, des envoyés spéciaux, de certaines ONG, voire même de certaines élites intellectuelles congolaises pour demander aux autorités congolaises de reconsidérer leur position, de ne pas discuter avec le M23. Au regard de l'escalade sur terrain, votre position reste-t-elle immuable?
J'aimerais mettre un point sur les i. Alors, quand vous parlez des États-Unis, nous, de notre côté, nous n'avons pas reçu une communication officielle des États-Unis ou encore de certains envoyés spéciaux, comme vous êtes en train de mentionner. Il serait intéressant, de toute façon, de recevoir ça. Mais dans tous les cas, par rapport à votre question, notre ligne n'a pas changé. Nous ne négocierons pas avec le M23, nous ne discuterons pas avec le M23. Pourquoi? Parce que le M23, il n'y a rien qui a changé dans sa structure. Le M23 reste les papettes du gouvernement rwandais, les papettes de la Rwandan Defense Forces. Tant que cela ne changera pas, nous ne discuterons jamais avec eux. Deuxièmement, qu'est-ce qui a changé sur le terrain pour qu'aujourd'hui le gouvernement congolais puisse reconsidérer sa position? Rien du tout. Bien au contraire, les choses se sont empirées. Le Rwanda n'a respecté aucun engagement pris au niveau régional avec toutes les initiatives de paix qui ont été lancées, que ce soit à partir de Luanda ou encore de Nairobi. Le Rwanda n'a pas bougé d'un seul iota malgré toutes les pressions qu'ils reçoivent des États-Unis que vous êtes en train de mentionner notamment. Souvenez-vous que les États-Unis sont quand même l'une des premières puissances à avoir condamné nommément le Rwanda comme étant cela qui agresse la RDC. Et deuxièmement, vous avez sûrement suivi que les mêmes États-Unis ont commencé un processus de sanctions contre les officiers rwandais, les officiers actifs rwandais. Donc, pour nous, la position n'a pas changé. Nous ne discuterons pas avec le M23 parce que les engagements pris par leur maître de Kigali ne sont pas respectés.
Vous parlez de Luanda et de Nairobi, mais on parle de moins en moins, du moins en public, des efforts de la facilitation et autres acteurs bilatéraux et multilatéraux pour obtenir la résolution de la problématique des groupes armés, y compris le M23. Quels sont les derniers développements? Luanda, Nairobi ont-ils échoué?
Alors, ce que moi j'aime quand vous utilisez le mot, l'expression « pas en public », tous les processus de Nairobi, par exemple, Nairobi 1, 2 et 3, ne regardez pas la facette qui
transparaît.
Voilà, parce que tout a toujours commencé par des discussions, des réunions sous les radars, si je peux le dire ainsi. Il y a des discussions diplomatiques qui sont également faites, malgré que sur la surface, ça n'apparaît pas.
En off.
Oui, ça se fait en off. Et quand tous les éléments sont réunis, c'est là que nous annonçons généralement une réunion ou un processus. Nous parlons aujourd'hui de Nairobi 4. En fait, n'oubliez pas qu'en Nairobi 3, les groupes armés locaux qui étaient réunis avaient pris des engagements. Et de l'autre côté, l'État s'était également engagé à faire certaines choses. Par exemple, se pencher sur la question des détenus qui étaient sortis de ces groupes armés. D'accord? Nous sommes en pleine discussion à notre niveau pour voir comment commencer notamment à se pencher sur le cas par cas de certains membres des groupes armés, parce que nous avons finalement reçu la liste des détenus appartenant à chacun de ces groupes armés qui étaient à Nairobi 3. Alors, maintenant, c'est seulement quand nous serons prêts que finalement nous pourrons aller vers eux pour dire, voilà, nous avons respecté notre partie et voilà, de votre côté également, les engagements qui étaient pris devront être respectés. Il y a par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de discuter sur la façon dont nous pouvons continuer à avoir des mesures de transition pour pouvoir aider certains ex-combattants à rentrer dans la vie civile. Alors, tout ceci se fait d'une certaine manière. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique que les choses se font pour dire, voilà, nous avons Nairobi 4. La même chose avec le processus de Luanda, qui, lui, a été chargé de s'occuper de baisser les tensions entre le Rwanda et la RDC. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, la situation sur terrain, là où le Rwanda continue à renforcer et à se rendre coupable de l'agression, c'est tous les jours de l'agression contre la RDC. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même certains réajustements qui doivent être faits avant de pouvoir siéger, que ce soit au niveau ministériel comme au niveau des sommets des chefs d'État.
Professeur Serge Tshibangu, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur www.radiocapi.net. Et c'est la fin de cette édition du journal, supervisée et coordonnée par Alain Irung. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Radio Capi.